Hélène Combalvaïs, vous avez une installation que l'on peut découvrir ici même au Grenier-Astel à Avignon autour de l'écoute. Une installation autour de l'oreille interne. L'oreille interne, c'est ce qui permet de rester en équilibre au départ, non?
Alors oui, c'est une question très intéressante parce que justement, moi, c'est tout l'endroit en fait de mon intérêt, c'est que l'oreille interne, c'est une cavité osseuse, c'est un élément anatomique du corps qui permet à la fois en effet de gérer notre équilibre du corps, nos mouvements dans l'espace, notre orientation dans l'espace, mais c'est aussi un endroit où il y a la transduction auditif, c'est-à-dire l'interprétation des fréquences sonores pour comprendre de manière auditive notre environnement et les sons. Et moi, c'est un peu cette double fonctionnalité un peu mystérieuse qui m'a donné envie de venir investiguer sur comment individuellement et collectivement on vit l'écoute et le mouvement, l'équilibre. Donc voilà, c'est un peu cette sorte d'hybridité qui m'a aussi attisé la curiosité.
L'oreille interne, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Dans la cochlée, ça résonne. Dans le vestibule, ça bouge.
Quand je chante, j'écoute pas ma voix. Quand je chante, j'active physiquement des mécanismes dont je sais qu'ils vont optimiser l'accolement des cordes vocales, qu'ils vont permettre une régulation de l'air, qu'ils vont permettre du coup un son plus ou moins continu, donc ça dépend beaucoup des répertoires aussi, mais je n'entends pas du tout la voix dans sa réalité à l'extérieur de moi. Donc je ne m'entends pas sonner, mais je me sens vibrer. Il faut que je m'enregistre pour pouvoir entendre ce que ça donne de l'extérieur. Il m'est vraiment arrivé d'entendre ma voix et en fait de ne pas savoir que c'était moi, et de penser que c'était une autre chanteuse. Dans les moments les plus joyeux, c'était que ça me plaisait. Donc j'étais super contente, je me disais, oh là là, elle chante bien, c'est qui? Et puis en fait c'était moi. Il y a des vraies différences entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que le public entend. Donc c'est troublant, quoi. Il n'y a pas d'égalité, jamais, en fait.
Évidemment, il y a deux parties dans l'installation. Il y a une partie visuelle, où on voit des acrobates. Alors, l'acrobate, par définition, c'est quelqu'un qui défie l'équilibre, souvent. Et après, il y a une partie audio, mais là, on n'a plus d'image.
Pour être très précise, la partie visuelle, donc c'est une vidéo que je présente comme une sorte de vidéo un peu, je vais utiliser le mot anglais, making of, une vidéo qui va un peu montrer comment j'ai procédé pour créer certains sons qu'on retrouve dans l'œuvre sonore. Et en fait, on a procédé avec des acrobates à de la sonification de mouvement, c'est-à-dire qu'on a utilisé des capteurs de mouvement qu'on a posés sur la tête pour imiter les fonctions de l'oreille interne de captation de mouvement. Et en fait, de venir utiliser en fait ces informations numériques de mouvement donc pour moduler des sons. Donc ça a été une manière, un processus pour venir créer des sons qui sont liés à des mouvements. Et ces sons-là, en fait, je les ai utilisés pour composer l'œuvre sonore documentaire qui se passe dans cette installation. Donc la vidéo qui est montrée, elle est montrée pour essayer de donner une vision du processus de création. Et l'œuvre Horis Incognita, donc c'est cette œuvre documentaire sonore immersive, sonore, donc parce qu'on est à la fois en conduction osseuse, donc l'écoute avec un casque à conduction osseuse, et avec une spatialisation en quadriphonie. Et donc on est constamment dans une écoute interne et externe de par cette double diffusion sonore.
Moi je pense que la première fois que j'ai eu une attention vers l'oreille interne, c'est quand j'ai fait mes premiers double arrière au trampoline, double salto arrière. Et c'est étrange parce que quand j'y pense maintenant, c'est plus une sensation de temps qu'une sensation d'espace. Il y a vraiment un truc de... J'ai fait deux rotations en arrière sur toi et ça prend un certain temps. Et même si t'es pas plus haut que si t'en as fait un, bah le temps paraît plus long. Ou il y a quelque chose comme ça. Je sais où je suis, mais par rapport au temps et pas par rapport à l'espace, parce que ça va trop vite pour que tu puisses le voir. Et c'est vraiment un truc de... Ça prend une forme temporelle plutôt que spatiale.
Perturbant à l'écoute, hein, parce que même à la stéréophonie, par moment, on a la tête un peu qui vacille. Et alors, en plus, il y a un système qui se trouve à la fois matérialiste et très simple, c'est qu'en fait, l'auditeur, il est dans une position instable. C'est-à-dire, vous voulez vraiment le déséquilibrer, quoi.
Bah oui, moi, mon envie, c'était vraiment de créer une expérience assez plurisensorielle, c'est-à-dire mettre chacun chacune dans un conditionnement sensoriel qui va du coup défier notre stabilité avec donc des ballons sur lesquels on est assis et assise, et venir en écho à la fois avec nos capacités auditives et les capacités de stabilité, etc. Moi, je suis très heureuse que ce projet sur lequel je travaille depuis 4 ans soit présent au sein de cette exposition. Je trouve que c'est une exposition extrêmement riche, extrêmement intéressante qui à la fois fait écho à moi, ma propre recherche dans cette création, mais ouvre aussi des champs très variés, très intéressants sur nos capacités de nous entendre. Moi, je pense qu'aussi mon envie en faisant Auris Incognita, c'était de venir donner la parole à une pluralité d'expériences, de vécu, du corps et des sens, et des savoirs aussi. Il y a énormément de résonances qui se créent en fait, à la fois pour le projet et pour cette exposition extrêmement riche sur la question de comment on arrive à s'entendre, à être attentifs les uns aux unes aux autres. Pour moi, c'est à la fois un plaisir et une chance de faire partie de ce voyage qu'on peut offrir à des spectateurs, spectatrices de l'exposition. Merci.